partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et témoigne dans le Seigneur. C'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations marchent, dans la vanité de leurs pensées, ayant leur entendement obscurci, étant étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, et qui, ayant perdu tout sentiment moral, se sont livrés à la débauche pour pratiquer avidement toute impureté. Mais vous n'avez pas ainsi appris le Christ. Si du moins vous l'avez entendu et avez été instruit en lui selon que la vérité est en Jésus, c'est-à-dire en ce qui concerne votre première manière de vivre, d'avoir dépouillé le vieil homme qui se corrompt selon les convoitises trompeuses, et d'être renouvelé dans l'esprit de votre entendement, et d'avoir revêtu le nouvel homme créé selon Dieu, en justice et sainteté de la vérité. C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, parlez la vérité chacun à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Mettez-vous en colère et ne péchez pas, que votre soleil ne se couche pas sur votre irritation, et ne donnez pas occasion au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses propres mains ce qui est bon, afin qu'il ait de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre à l'édification selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume et tout courroux, et toute colère et toute crierie, et toute injure soit ôtée du milieu de vous, de même que toute malice. Mais soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu aussi en Christ vous a pardonné.
Ce matin, on a donc commencé cette étude du chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens. Et on avait noté que, à partir de ce chapitre 4, il y avait ces exhortations qui se répétaient de marcher, de vivre, marcher. Ce matin, on était s'est arrêté sur marcher dans l'unité, donc marcher ensemble dans l'unité. Pour marcher ensemble dans l'unité, on peut dire que ça dépend de nous, pour commencer, parce qu'il y a des conditions à remplir. On a vu au début de ce verset 2, humilité, douceur et support, longanimité. Et puis, ça dépend pas seulement de nous, heureusement, mais ça dépend de l'unité que Dieu a, de notre Dieu, l'unité de notre Dieu. Père, on a vu Dieu, Saint-Esprit, le Seigneur, un. On a découvert que cette unité pouvait se vivre et s'enrichir l'un par l'autre. Alors, le Seigneur Jésus victorieux a donné des dons, des personnes pour aider à la croissance du corps tout entier, c'est-à-dire de chacun de nous. Et nous allons pouvoir, en nous approchant du Seigneur, grandir et pouvoir être de ceux qui apportent des connexions pour que le corps puisse vivre harmonieusement, puisse grandir. Mais cela nécessite notre maturité, on a vu cela, notre maturité. Des chrétiens qui parviennent à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature, de la plénitude du Christ. Ainsi nous ne serons plus déstabilisables, nous serons stable dans notre foi, dans nos convictions, dans ce que nous croyons. Et voilà, nous allons pouvoir vivre ensemble. Et on nous a dit que on pouvait grandir par la lecture de la Bible, par une relation de prière, mais aussi par la communion fraternelle vécue. Et c'était ça le sujet de ce matin. Alors, nous sommes dans la deuxième partie, avec un nouveau marché. Là, c'est une partie négative. Ne marchez plus comme ces restes des nations. Des gens qui vivent indépendamment de Dieu. Mais il va y avoir un secret. Alors comment marcher pour vivre une vie de sainteté, de pureté? Et on va découvrir qu'il va y avoir une nécessité de changement de système de pensée. Et comment ? yoga, etc. Non, non, vous allez voir, c'est pas ça. Cette expression « apprendre le Christ ». Alors ça va être certainement un moment fort dans cette étude cet après-midi. Et on va voir que Dieu a fait des choses, il nous a transformés, changés. Et cela va nous amener à du concret. Alors on ne ment plus, on ne vole plus, on ne dit plus de choses désagréables sur les autres. On se pardonne, il n'y a plus d'amertume, voilà, c'est merveilleux. Voilà, donc il y a quand même des exhortations, c'est signe qu'on a besoin d'apprendre encore cet après-midi. Donc voilà le thème de l'après-midi, comment vivre une vie de sainteté qui honore le Seigneur, avec lequel nous sommes associés, parce que c'est la pensée du Père de toute éternité, on l'a dit ce matin, de nous associer à la gloire de son propre Fils. Alors voilà, nous sommes appelés à découvrir cette marche dans la pratique de nos journées.
On a donc 16 versets qui sont proposés à notre étude, qui se divisent de façon relativement simple en 8 versets, des versets 17 à 24, puis les versets 25 à 32. Et dans les versets 17 à 24, donc le thème général, c'est la marche dans la sainteté, marcher dans la sainteté. Et dans les versets 17 à 24, on va voir le contexte, la condition préalable pour que justement nous puissions marcher dans la sainteté, dans le concret, que l'on va voir ensuite dans les versets 25 à 32. Alors il y a un aspect négatif, ne plus faire comme avant, versets 17 à 19, et changer, être renouvelé dans les versets 20 à 24. Et de façon, tu as déjà ébauché ce sujet Philippe, de façon caractéristique, Paul va rattacher la façon dont nous marchons à la façon dont nous pensons. Parce que, comme le dit le livre des Proverbes au chapitre 23, comme il a pensé, tel il est. Et c'est vrai que nos pensées vont gouverner notre marche. D'où ces expressions que l'on voit déjà dans les versets 17 à 19 qui nous présentent l'ancienne manière de penser qui se traduit dans une ancienne manière de marcher, avec l'intelligence, la pensée, l'ignorance aussi qui a relation à la pensée. Et puis après, dans l'aspect positif des versets 20 à 24, où il va être question d'apprendre, d'écouter, d'être instruit, etc. Donc la pensée gouverne l'action. Et ça, c'est quelque chose que l'on trouve à travers toute la parole de Dieu. Et ensuite, donc, dans la deuxième partie des versets 25 à 32, on va avoir 5 domaines ou principes des versets 17 à 24, et plus précisément des versets 20 à 24, vont être appliqués. 5 domaines, avec chaque fois une présentation qui sera faite en 3 parties, une exhortation négative, une exhortation positive, et une raison qui est donnée. Donc, verset 25 concernant la vérité, dans les versets 26 et 27 concernant la colère, dans les versets 28 concernant le vol, dans les versets 29 et 30 concernant la parole, et dans les versets 31 et 32 concernant les sentiments. Et à part le deuxième où l'exhortation positive est donnée avant l'exhortation négative, chaque fois on va retrouver cette même trilogie, négatif, positif, motivation qui est donnée pour cela.
Un des grands sujets de l'unité que l'apôtre leur a présenté, et qui était un des grandes pierres d'achoppement, un des grands sujets de tension, de difficulté à l'époque, c'était l'unité entre les juifs et les non-juifs, ou les nations, les gentils. Il avait parlé de verset 14 du chapitre 2, « C'est lui qui est notre paix, qui des deux en a fait un, qui a détruit le mur mitoyen de clôture ayant aboli dans sa chair l'inimitié. » Donc il y avait vraiment un mur, c'était énorme, la séparation qu'il y avait entre les juifs et les non-juifs. Et dans le livre des Actes, on voit comme même pour un Pierre, c'était difficile d'aller vers les non-juifs au début, et puis pour l'assemblée de Jérusalem, c'était difficile de le concevoir. Ça fait tout un processus. Et là, l'apôtre explique cette union, cette unité de base entre juifs et non-juifs, qui bien sûr pour nous, d'abord parce qu'on est, pour la plupart d'entre nous, plutôt dans la famille des non-juifs, donc on ressent moins peut-être ce que ça voulait dire. Alors il y a sûrement des applications plus modernes, hein, dans l'Église, différentes orientations, et il veut unir, il veut abolir ces murs. Mais alors arrive à notre verset 17, ne marchez plus comme le reste des nations marche. Et là, il va faire un peu un descriptif, justement, des nations, de tout ce qui était un peu répugnant, peut-être, pour les Juifs. Et voilà, il va aussi, là, le présenter. Alors, c'est une liste qui nous paraît très, bien sûr, très négative, et qui a l'air d'accumuler plein de choses, hein. Vanité de leurs pensées, leur entendement obscurci, étranger à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment moral, débauche, avidement toute impureté. On dit, voilà, mais quelle accumulation! Quand on sort de ce paragraphe, on est essoufflé et on languit le paragraphe d'après. Mais il y a sûrement un peu aussi de présenter là ce qui était le tableau vraiment des nations, ce qui répugnait un petit peu les Juifs à l'époque. Et voilà, de dire les choses comme elles sont, sans les embellir, sans mettre plein de fleurs, de dire les choses, de les appeler par leur nom, de pas avoir peur de cela. Vous, gens des nations, je me suis battu pour vous, je vous ai appris à être unis aussi aux Juifs, mais là, faut aussi comprendre que pour votre frère juif, c'était vraiment ça, c'était vraiment très très difficile d'accepter ça de la part des nations. Et d'appeler les choses par leur nom, de le dire, même si cette liste nous paraît très très forte, ça avait ce but aussi de lumière, pour montrer ce que c'était, pour nous inviter à la pureté.
Liste, on a quand même, l'apôtre nous montre justement un certain cheminement. Elle n'est pas, à mon avis, au hasard. Et comme a dit Joël, elle commence par les pensées. Dans notre vie, je le répète, tout commence par les pensées. On pourrait lire dans Philippiens 4, hein, pour bien montrer qu'en effet, nos pensées sont importantes. Et j'aime bien ce passage parce que souvent, on veut lutter contre les mauvaises pensées, ce qui est une lutte un peu perdue, d'avance. Mais les Philippiens 4 nous enjoint à justement penser juste. Or, le monde, lui, qui nous est présenté, pense mal. Donc, on peut lire Philippiens 4, verset 8, et chacun pourra le lire, que les choses qui sont vénérables, justes, pures, aimables, de bonne renommée, les louanges, les vertus, que ces choses occupent vos pensées, c'est la façon bonne qu'on s'occupe de bonnes choses. Le monde lui est occupé d'autres choses. Les pensées, après, arrivent à l'autre cheminement, c'est la façon de raisonner. L'entendement. Donc, ces pensées vont nous faire raisonner d'une certaine façon. Donc, on part des pensées, appuie à ce raisonnement. Vous pourrez lire dans Romains, au chapitre 12, que nous avons à être renouvelés dans notre entendement, c'est-à-dire à penser différemment. Et puis après, on a la connaissance des choses. Mais cela vient après toutes ces choses-là. Et puis, le résultat, dans ce cas qui nous est cité là, c'est la volonté de dire non, l'endurcissement du cœur. Non, je ne veux pas. On a vu tout à l'heure que pour nous, il fallait dire oui, je veux suivre le Seigneur. Oui, je veux. Et là, le monde dit non, je ne veux pas. Ce sont des caractères qu'il faut regarder s'ils nous sont cités, parce que ce sont des dangers. Si vous pensez, les pensées notamment, si nous pensons que ce sont quelque chose d'innocent parfois, c'est une grave erreur et ça, c'est un piège. La façon de raisonner va en découler et notre cœur, notre volonté va aussi en découler.
Quand on aborde une suite comme cela, comme Frédéric le disait, c'est vrai qu'il y a une accumulation de termes qui nous rend un peu perplexes. Et historiquement, il y avait cette difficulté peut-être pour les frères juifs de comprendre leurs frères païens. Mais peut-être que pour nous aujourd'hui, il y a aussi cette pensée qui peut se glisser, de dire bon, oui d'accord, ça c'est effectivement pratiquer avidement toute impureté, ça c'est les gens qui sont autour de moi, mais moi je grandis dans une famille chrétienne, toujours bien propre sur moi, voilà. Et on peut revenir à la première mention du verbe marcher dans cette lettre, qui est au début du chapitre 2, où Paul dit vous avez marché, vous, sous-entendu les païens, vous avez marché autrefois selon le train de ce monde, et il parle de ces morts spirituellement qui marchent. On va retrouver exactement la même pensée ici avec ceux qui sont étrangers à la vie de Dieu, donc qui sont morts spirituellement. Et ils marchent, et il rajoute aussi, parmi lesquels nous aussi, nous avons conversé autrefois, accomplissant de la volonté, de la chair et des pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme aussi les autres. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Même si on a eu une enfance très protégée, même si on n'a pas fait de crise d'adolescence énorme, même si en tant que jeune homme ou jeune fille, on s'est gardé pur, même si ensuite, par la grâce de Dieu, on a pu vivre une vie qui ne déshonore pas complètement le Seigneur, nous étions, par nature, des enfants de colère, comme aussi les autres. Et cela, c'est quelque chose que nous devons nous le répéter. Fondamentalement, je ne suis pas meilleur que M. Fourniret ou que Adolf Hitler. Je suis fondamentalement capable des mêmes choses. Nous étions par nature des enfants de colère, comme aussi les autres. Et pourquoi il ne s'est pas passé dans ma vie des choses comme il s'en est passé dans la vie des deux personnes que j'ai mentionnées? Parce que Dieu est riche en miséricorde et sa grâce a agi envers nous. De sorte que on peut lire ces versets non pas avec un sentiment de supériorité, « Oh ben dis donc, ils sont pas bien ceux-là !» Mais non, mais dans le sentiment de la grâce de Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous faut revenir au chapitre 2, au début du chapitre 2, avec lequel on a vu que la section de ce matin avait un fort lien avec la fin du chapitre 2. Il me semble que cette section-là a un fort lien avec le début du chapitre 2. Il faut revenir au début du chapitre 2 et se dire qu'effectivement, nous sommes sauvés par la grâce. Et il a fallu cette accumulation, la bonté, la miséricorde, l'amour, la grâce de Dieu, ces quatre termes que l'on trouve dans le chapitre 2, qui nous a préservés, qui nous a mis dans un cocon, qui a pris soin de nous, au moins pour beaucoup de ceux qui sont là, on connaît un peu les familles. Eh bien, heureusement qu'il y a eu cette grâce de Dieu. Mais néanmoins, on peut être quand même tenté. Et j'aurais un point à mettre en évidence sur le verset 19. Se sont livrés à la débauche. Alors, si on regarde précisément le terme, il n'a pas forcément une seule connotation sexuelle comme nous on le mettrait. La débauche, c'est quoi au sens littéral de ce terme-là, qui a un sens assez large, c'est pas simplement une orgie sexuelle, c'est le fait de se livrer à ses pulsions sans tenir compte des autres. Et ça, c'est un état d'esprit que l'on trouve dans la société d'aujourd'hui. Moi, je fais ce qui me plaît, les autres, j'en ai rien à carrer. C'est moi l'expression. Rien à faire des autres. Voilà. Et on donne libre frein à ses instincts, à ses pulsions, sans tenir compte des autres. Et on voit que si cela se traduit dans l'Église, eh bien forcément, tout ce qu'on a lu, les 16 premiers versets de ce chapitre, ça va être extrêmement difficile à mettre en pratique. D'où l'importance pour nous de ne pas intérioriser ces mécanismes, ces éléments du monde, comme le dira Paul dans l'Épître aux Colossiens, sous une autre forme, ces axiomes, ces idées qui flottent dans l'air et qui nous imprègnent par les médias, par les contacts que nous pouvons avoir avec des collègues, avec des camarades, que sais-je, et qui peuvent nous polluer. De sorte que on a un petit peu un masque sanitaire dans ces versets-là appliqué sur notre visage pour ne pas respirer le même air et pas être influencé par les mêmes choses.
Les Corinthiens auxquels Paul écrivait précédemment, ils étaient un peu dans la même situation. Ils étaient dans une atmosphère, entourés du monde païen. À Corinthe, c'était bien connu, complètement délétère pour le chrétien. Et nous sommes dans cette atmosphère-là. Et on ne peut pas totalement échapper. C'est vrai que ce matin, nous avons vu que le croyant est appelé d'un saint appel, d'un appel céleste, à la plus merveilleuse des associations avec le Seigneur Jésus, celui qui est au-dessus de tout. Et nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ. Et on a vu ce tableau merveilleux. Et puis là, on redescend vraiment dans notre condition d'humanité. L'Esprit de Dieu ne fait pas comme si nous étions arrivés déjà. Non, non. On est bien sur la terre. On est bien dans un corps. Oui, bon, c'est un serviteur. Le mal n'est pas dans le corps. Non, non. Mais il est dans nos pensées. Il est dans la façon dont on va traiter son corps, dont on va s'en servir. Et on est entouré de mauvais exemples, mais d'une atmosphère, comme l'atmosphère qui nous entoure, ça nous colle aussi à la peau. Et les Corinthiens, comme les Éphésiens, étaient dans une situation très défavorable à l'expression de la vie de Dieu. Nous le sommes aussi, nous. Mais l'apôtre Paul, ici comme ailleurs, ne va pas donner un code. Il ne faut pas comprendre ses exhortations comme un code. Là encore, il va fonder ses exhortations sur des réalités qui ne dépendent pas de nous. Alors, à contrario, quand il est dit « étranger à la vie de Dieu »,
Eh bien, pour le croyant, il a la vie de Dieu. Et c'est pas rien. Bon, c'est pas rien. Il a la vie de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Enfin, ça, c'est le ministère de Paul, de Jean. Il insiste beaucoup sur la vie née de Dieu. Nous avons la vie éternelle, nous qui croyons au nom du Fils unique de Dieu. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons la vie de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. Et puis, dans les versets suivants, il dit, vous avez appris le Christ. Apprendre le Christ, et je comprends au moins que c'est avoir appris de son exemple. Et combien le Seigneur a traversé ce monde dans la pureté, en parole, en action, en pensée. Il dit, ma pensée ne va pas au-delà de ma parole. Ou il dit aux Juifs, je suis absolument ce que si je vous dis. Bon, donc on voit la rectitude du Seigneur. Il faut qu'on apprenne aussi de son exemple, comment il s'est gardé dans la pureté. Et puis, il semble fonder aussi ses exhortations sur le fait de notre nouvelle identité. Il semble bien que le vieil homme et le nouvel homme, ce soit une question d'identité. Le vieil homme, c'est l'ancienne identité. Bon, elle se corrompait selon les convoitises trompeuses. Et le nouvel homme, nous l'avons revêtu, il n'est pas dit de le revêtir, comme dans les Colossiens, ce sont des faits, ayant revêtu le nouvel homme, c'est notre nouvelle identité. Et c'est bien possible qu'entre le vieil homme et la chair, il y ait une différence. La chair, c'est cette propension que l'on garde en soi de péché. Le vieil homme, c'est notre ancienne identité, et qui n'existe plus devant Dieu, mais il nous voit revêtu de ce nouvel homme. Créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Donc, Paul fonde ses exhortations sur des réalités. Nous avons la vie de Dieu, nous avons le Christ comme modèle, nous avons l'Esprit, il l'a dit ailleurs, au premier chapitre, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, et l'Épître aux Galates nous dira combien c'est une ressource, cet Esprit, pour produire ces fruits positifs, ce fruit de l'Esprit. Et donc, à partir du verset 25, il va en découler de cette bonne assise de ces réalités, il va en découler des exhortations, mais qui ne sont pas un code.
Quel soulagement, en tout cas, ce verset 20, comme un éclat après ce tableau très noir, qui, comme l'a dit Joël, c'est notre tableau, et plus on devient mature, comme on l'a vu au paragraphe précédent, plus on a ce sentiment de la grâce, de ce que nous sommes au fond et de ce que le Seigneur fait pour nous. Et ce verset 20, c'est « Mais vous n'avez pas ainsi appris le Christ ». C'est très très beau, c'est... Voilà, le Christ, il est différent de tout ça. D'abord dans sa perfection, tu l'as mentionné, sa perfection, je répète les trois expressions du Nouveau Testament, lui qui n'a pas connu le péché, lui qui n'a pas commis le péché, et il n'y a pas de péché en lui. Gardons-les, ces trois expressions, parce qu'il y a des attaques des fois contre la personne du Seigneur. Vous n'avez pas ainsi appris le Christ, il est tout différent, et ce que vous avez appris de lui, ce que vous voyez dans sa personne, ben c'est tout l'opposé de ce qu'on vient de lire là. Et son apprentissage, sa communion, son intimité, eh bien vont nous aider à vivre en pureté. Vous n'avez point appris le Christ, ça répond aussi un peu à tout ce qu'on a lu depuis ce matin. Le Seigneur est un peu partout dans nos versets. Et plusieurs fois, on voit que tout est tourné vers lui. On a vu son élévation, sa gloire, monter au-dessus de tous les cieux tout à l'heure. On a vu l'édification de son corps, et puis la mesure de la stature, de la plénitude du Christ, et encore toute chose jusqu'à lui qui est le chef, le Christ. On voit que tout ça tend vers lui. Il est le centre, il est l'orientation de nos vies. Et là, il va aussi en être le modèle, celui duquel nous apprenons.
Je s'attarder un petit peu sur les trois verbes du verset 21, fin du verset 20 et début du verset 21. Apprendre le Christ, si on l'a entendu et on a été instruit en lui. Donc on a appris le Christ. Le Christ est le sujet de notre enseignement. Ce qu'on a entendu, si vous l'avez entendu. Donc si on a appris le Christ, comme on le disait, c'est peut-être davantage la conduite du Seigneur Jésus que tel qu'on la voit. Si on l'a entendu, ce sont ses paroles. Si on prend les évangiles, suivant les évangiles, on a entre 40 et 60% des versets qui sont des paroles du Seigneur Jésus. Et la pratique de nos frères anglo-saxons, c'est souvent d'avoir des bibles, red letters, où les paroles du Seigneur Jésus sont en rouge à travers du Nouveau Testament. Et ça fait bien ressortir les paroles du Seigneur Jésus qu'on a entendues. Et on a été instruits en lui. Donc là, c'est plus l'atmosphère dans laquelle l'instruction est donnée. Et cette atmosphère, elle est chrétienne, dans ce sens qu'elle est centrée sur Christ. On a évoqué ce matin comment on pouvait lire l'Ancien Testament, le psaume 68, en y trouvant Christ. Il me semble que c'est ce qu'on a aussi derrière cette expression-là. On est instruit, mais en lui. Alors, c'est pas un en lui mystique, ça veut dire en le cherchant, en cherchant à rattacher notre instruction, les instructions pratiques, l'enseignement général de la parole de Dieu, à Jésus-Christ. Avoir une lecture, qu'on dit aussi, christocentrique de l'Écriture. Et c'est exactement, me semble-t-il, ce que l'on trouve derrière cette expression-là. Mais si je reviens à la première, vous n'avez pas ainsi appris le Christ. Donc là, c'est peut-être plutôt la façon dont le Seigneur a marché. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Vous savez comme moi que quand on apprend, parfois ça ne rentre pas tout seul. On a besoin parfois de réviser les leçons et puis de les réviser. Ma deuxième fille apprend les tables de multiplication. Bon, tables de multiplication, il faut les répéter pour que ça rentre. Toujours fait pareil. Voilà. Et apprendre le Christ. Paul, il avait dû apprendre à être satisfait. Et donc on voit que notre imitation de Jésus-Christ, c'est quelque chose que nous avons à apprendre de façon continue et qui prend du temps et qui n'est pas acquise une fois pour toutes. Et donc nous avons à apprendre le Christ. Mais pour cela, pour progresser dans cette imitation de Jésus-Christ, eh bien, il faut l'entendre, écouter ses paroles et recevoir l'ensemble de l'instruction globalement, selon que la vérité est en Jésus. Tout le monde pense à ce passage, Jean 14, verset 6, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et là, on a, pour ainsi dire, la réciproque logique. La vérité est en Jésus. Dire que Jésus est la vérité, ça veut dire que sa personne est la vérité. Mais de notre côté, tout ce qui est la vérité ne peut pas être dissocié du Seigneur Jésus. Et c'est la réciproque de Jean 14, 6 que l'on a dans ce verset-là. De sorte que on sait que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu sont aussi la vérité, et que font-ils sinon de rendre témoignage de Jésus-Christ? Mais donc, on ne peut pas trouver la vérité en dehors de Jésus-Christ. Oh là là, parole éminemment politiquement incorrecte aujourd'hui. Tu as ta vérité, j'ai la mienne. Et on sait qu'on est tolérant envers tout, sauf envers celui qui va dire Jésus est la vérité. Et pourtant, nous avons affirmé que la vérité est en Jésus, elle n'est pas en Mahomet, elle n'est pas en Bouddha, elle n'est pas dans un salmigondi de croyances diverses où chacun ferait sa petite toutouille à lui, elle est en Jésus-Christ seulement. La vérité est en Jésus. Et il n'est pas dit en Christ, ça aurait pu être. Il n'est pas dit dans le Fils de Dieu, ça aurait pu être. Dans Jésus. Et quand Paul, qui fait une utilisation très précise et pointue des noms du Seigneur Jésus, utilise ce terme tout seul, la vérité étant Jésus, il me semble que c'est pour rappeler qu'il est dans le Jésus historique, dans celui qui est né et dont on a appelé le nom Jésus. Et donc, on ne peut pas dissocier la vérité de l'historicité du Seigneur Jésus. Autrement dit, notre foi chrétienne se base de façon indissoluble sur la réalité historique de l'incarnation, de la vie, de la mort et de la résurrection de Jésus, l'homme qui a été appelé ainsi et qui a vécu entre moins 4 ou moins 5 de notre ère et qui est mort vers l'an 30 à 33, à quelques années près. Et c'est cela, la vérité, elle est en lui. Elle est en lui. Alors aujourd'hui, on n'est pas très intéressé dans la vérité. Et du coup, on n'est pas très intéressé en Jésus, en le vrai Jésus. Oh, Jacques Lucquen va écrire son bouquin, l'autre va écrire l'évangile selon Judas avec sa vision, etc. En général, vous savez, c'est ce qu'on appelle un marronnier. Chaque année, il y a un bouquin qui sort sur Jésus. On a retrouvé le Jésus historique, etc. Mais non, parce que chacun veut sa vérité sur Jésus, mais la vérité, elle est en Jésus. Et notre génération, elle fait comme Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Et on sort. Nous voulons rester.
On peut apprendre des choses sur un personnage historique, on peut apprendre un petit peu sur Napoléon, sur un grand artiste, mais toutes ces personnes sont mortes. Et vous n'avez pas ainsi appris le Christ. Il y a le côté qu'on apprend de quelqu'un qui est encore vivant. On apprend, bien sûr, on lit tout ce qu'il a été, tout ce qu'il a fait. Ça, c'est les évangiles. Ensuite, on a tout le Nouveau Testament qui nous raconte. On a l'Ancien Testament qui nous éclaire, qui donne des images, des types. On a même la personne de Dieu aussi dans l'Ancien Testament, dans toute la Bible, pour nous aider à le connaître. Mais on apprend à connaître quelqu'un de vivant. Il y a aussi ça dans « Vous n'avez pas ainsi appris le Christ ». Le Christ, vous l'apprenez parce que c'est quelqu'un de vivant. Ce n'est pas comme savoir des choses sur une personne du passé. C'est vraiment apprendre à le connaître parce qu'il est vivant.
Il y a deux points dans les versets 17 à 19 qui caractérisaient ce qui était loin de Dieu, sur lesquels nous devons faire attention. L'ignorance qui est en eux, l'endurcissement de leur cœur. C'est bien ce qui caractérise l'homme quand il est loin de Dieu. Et il ne faudrait pas que, à contrario, nous soyons imbus de la connaissance et nous n'aimions pas comme Christ a aimé. Et ça, ce n'est pas facile. Si on rapproche ce passage, donc à partir du verset 20, de ce qui nous est dit à propos de nos pensées dans Philippiens 2, qu'est-ce qui doit occuper nos pensées et nos pensées à tous ? Comme l'apôtre le dit, une même pensée. Et puis au verset 5, ayez donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, lui qui, etc. Ce qui concerne l'abaissement, l'anéantissement du Seigneur et son élévation. Peut-être frappé de voir qu'il y a là un secret qui nous est donné. Lorsque je suis occupé de ce que Christ a fait, cela va me former, cela va me façonner. Et que il ne s'agit pas tellement de faire comme Christ a fait, mais il s'agit d'être occupé de ce qu'il a été pour Dieu, de ce qu'il a fait pour Dieu, pour l'homme, et de ce que Dieu a fait pour lui lorsqu'il a été élevé dans le ciel. C'est très frappant de voir comment la force du christianisme, la force du salut, la force de la foi chrétienne, la force de ce qui est appelé ici le nouvel homme, c'est que lorsque mes pensées sont occupées de ce que Christ est et a fait, je vais être transformé. Ma vie même, mes pensées même, donc tout ce qui en découlera, comme cela a été dit, vont être selon ce que Dieu veut, c'est-à-dire selon l'expression, la vie de ce nouvel homme, et donc renouveler spirituellement dans notre intelligence, revêtir comme un vêtement, nous le savons bien, ce nouvel homme créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité.
Au fond, nous avons à marcher, bien sûr, à la suite du Seigneur Jésus. Je crois que c'est là la marche qui nous gardera. On sait que l'homme, dans ce monde, n'a aucun but. Il marche, mais il ne sait où il va. Combien il y a beaucoup, le doute est souvent dans leur cœur quant à l'avenir. On sait que l'homme est ignorant de l'avenir, contrairement aux chrétiens. Nous marchons à la suite de quelqu'un. Bien sûr, on dit que le monde marche à la suite de Satan. Mais nous marchons à la suite du Seigneur Jésus, et combien il est précieux d'apprendre de lui. Et on comprend, je pense, ici à l'évangile de Jean, lorsque Jean le baptiseur, il regardait Jésus qui marchait. Alors, quel était son sentiment? Voilà quelqu'un qui va apprendre de Christ. La première chose, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et on comprend que les disciples qui entendent les paroles, ils désirent maintenant marcher après lui. Et il est beau de voir qu'ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Ils vont apprendre ainsi dans le chemin, apprendre de Christ, comme ces Éphésiens ont appris de Christ. Et ils vont rester là. La parole ne nous dit pas ce que le Seigneur leur a dit. On voit que c'était un entretien avec le Seigneur, et nous avons besoin ainsi d'apprendre auprès de lui, nous apprendre à marcher aussi. Il est dit dans la parole que j'ai appris Éphraïm à marcher, en parlant d'Israël. Nous avons besoin ainsi du secours du Seigneur Jésus. Nous pas marcher selon nos propres pensées, dans la corruption comme ce monde, mais nous, comme on l'a dit, nos pensées sont dans le Christ Jésus, et nous sommes ainsi invités avoir son exemple. Christ nous a laissé un modèle afin que nous suivions ses traces, nous a-t-il dit. Alors marchons après lui, et au fond, ce sera une marche qui va l'honorer et le glorifier en attendant que notre course se termine dans le ciel.
Les versets 17 à 19 sont un petit peu comme une synthèse du chapitre 1er, d'une partie en tout cas du chapitre 1er de l'Épître aux Romains. Et si quand on regarde ce chapitre, on se rend compte que ce qui caractérise, que ce qui est décrit là, est autant une conséquence, une cause qu'une conséquence. Et la cause de cet état qui est là, c'est le fait que l'homme, mis en présence de Dieu, l'a refusé par orgueil, se disant sage. Il est devenu fou. Au premier verset de cet épître, on a lu du chapitre 4, on a lu avec toute humilité. Et ce qui caractérise la démarche d'apprentissage, c'est une démarche d'humilité. C'est accepter que l'on ne sait pas tout, accepter d'avoir à apprendre, accepter d'avoir à être instruit, accepter d'entendre plutôt que d'enseigner. Et c'est le contraire de la démarche de l'homme qui prétend connaître, avoir sa propre vérité, ne pas se soumettre à Dieu, étranger à la vie de Dieu. Et c'est peut-être un secret aujourd'hui pour nous, dans une situation, c'est qu'est-ce que je fais de Dieu ? Quelle place Dieu a-t-il dans ma vie ? Est-ce que c'est Dieu que je recherche, ou mes propres raisonnements, mes propres pensées, ma manière d'apprendre ? Et ici, on peut regarder la démarche qui est là et celle-là, une démarche d'humilité, une démarche qui est aussi une démarche exigeante, qui demande l'intelligence. Et c'est Dieu a voulu parler à l'homme par l'intelligence au début. Et ici, apprendre, être instruit, retenir, c'est une démarche qui met en œuvre l'intelligence que Dieu nous a donnée. Et puis, il faut une troisième chose. Dieu, au début, dans ce chapitre de l'Épître aux Romains, a donné comme quelque chose à l'homme pour lui faire envie de le connaître. Pour apprendre, il faut un intérêt, il faut une motivation. Il faut que ce qui nous est proposé à l'apprentissage nous attire. Sinon, on va le faire seulement par obligation et on n'ira pas très très loin. Et Dieu a montré, la création était là pour susciter le désir de l'homme de connaître Dieu. Et l'homme n'a pas voulu se soumettre à Dieu, il a voulu apprendre par lui-même, il a tout perdu. Et ici, Dieu nous montre la vérité qui est en Jésus. On a parlé de la gloire, de la beauté du Seigneur Jésus. Voilà ce que Dieu vient nous présenter. Alors, eh bien, mettons en œuvre ce que Dieu nous a donné, nos facultés pour comprendre, pour apprendre avec la parole de Dieu. Et on va progresser jusqu'à Christ de cette manière-là.
Apprendre le Christ. On aime à s'attarder quand même sur cette expression. Et ça nous renvoie à un verset que nous avons lu ce matin, Matthieu 11. Apprenez de moi. C'est le Seigneur qui le dit. Là, c'est Paul. Apprenez de moi. Et le Seigneur a réalisé parfaitement la dépendance, l'obéissance, la confiance. Rien que ces trois caractères, eh bien, on a étudié. Et on doit faire, et plus on est jeune, plus on commence jeune, plus c'est béni, l'apprentissage de la dépendance. Et c'est un apprentissage difficile. C'est justement l'apprentissage auquel ne s'est pas soumis, où il a échoué l'apprentissage, le peuple dans le désert. Le désert était pour qu'il fasse l'apprentissage de la dépendance de Dieu. La chair en nous, l'homme naturel, ne veut pas dépendre de Dieu. Il veut se diriger sa vie, se débrouiller comme il l'entend. Surtout pas de dépendance. C'est une galère pour l'incroyant que de lui parler de la dépendance de Dieu. Justement, ça se rapporte au joug. On est dépendant de quelqu'un auquel on est lié. Mais pour nous, chrétiens, c'est notre sécurité d'abord, mais c'est un bonheur. Oui, mais c'est quand même difficile. Parce qu'on est dans une condition d'humanité où nous aussi, on a notre volonté. Alors, bien sûr, dans cet apprentissage de la dépendance, on peut penser à tel serviteur de l'Ancien Testament qui, mettons David, qui interroge l'Éternel. On peut apprendre de ces hommes-là, oui. Mais la référence suprême, c'est le Seigneur. Combien il dépendait toujours de son Dieu en tant qu'homme. Bon, en tant que Dieu, il pouvait faire... Il était indépendant de Dieu, il était égal à Dieu, il était Dieu sur la terre. Bon. Mais en tant qu'homme, justement, ça se rapporte à ce Jésus, donc le nom de son humanité. Eh bien, combien le Seigneur était dépendant de Dieu. Plusieurs fois, il prie, même avant le choix de ses disciples, par exemple, il prie toute une nuit avant de prier ses disciples, de choisir ses disciples. On aurait pu penser que le Seigneur avait le discernement de tout, il n'avait pas besoin de prier, mais non, toute une nuit avant de choisir ses disciples. Et nous, alors, d'autant plus. Mais cette dépendance de Dieu, est-ce que je la réalise? Est-ce que nous la réalisons? Dépendre d'un autre, eh bien, nous avons à apprendre du Seigneur, là. Et la confiance, aussi. Eh bien, se confier dans le Seigneur, en Dieu. C'est un peu une énigme pour l'incroyant. Il ne se confie pas en Dieu. De toute façon, on ne peut pas se confier dans quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous rencontrez quelqu'un dans la rue, vous n'allez pas vous confier en lui parce que vous ne le connaissez pas. Ce serait une imprudence. Mais si vous le connaissez, si vous savez que cette personne vous aime, alors là, vous commencez à vous confier en lui et il faudrait que cette confiance se développe. Bon, nous avons des difficultés les uns et les autres, chacun sur son chemin, mais est-ce que nous avons confiance en Dieu au-dessus de toutes ces difficultés, pour en sortir de ces difficultés, de ces épreuves parfois? Est-ce que ça domine notre vie, la confiance en Dieu? Bien, nous la prenons du Seigneur Jésus. Enfin, toute sa vie, d'un bout à l'autre, il s'est confié en Dieu. Tu m'as donné confiance sur les mamelles de ma mère. C'est difficile à comprendre ce verset du psaume 40, du psaume 22. Tu m'as donné confiance, ça veut dire quoi? Eh bien, je crois qu'un nouveau-né, même un enfant, tout petit, ne peut pas se confier en Dieu. Mais je crois qu'il y a une identité de confiance entre Jésus et ses parents, Joseph et Marie. Pensez à ce jeune couple, combien il a dû se confier en Dieu dans des circonstances difficiles dans lesquelles cette naissance a eu lieu. Bon, je ne veux pas m'étendre là-dessus, ce beau sujet. Tu m'as donné confiance sur les mamelles de ma mère. Puis après, dans sa vie, bon, à l'âge de 12 ans, comme tous les juifs, les garçons étaient reconnus publiquement, c'était un acte... À l'âge de 12 ans, le père reconnaissait son enfant devant toute la population. C'était un rite juif, mais personne n'a reconnu le Seigneur, Jésus, à l'âge de 12 ans. Mais le Seigneur attendait, avait confiance en Dieu qu'un jour, il serait reconnu par le père. Et à l'âge de 30 ans, au Jourdain, quelqu'un a dit, cet homme, c'est mon fils. Une reconnaissance de Dieu. Et le Seigneur, je crois que le Seigneur se confie en Dieu pour avoir cette reconnaissance. Parce qu'il est dit dans le Ésaïe 60-61, au début du chapitre, « Si tu fendais les cieux, si tu descendais, il y avait ce désir. » Et dans l'évangile de Marc, il est dit justement qu'au Jourdain, les cieux se fendirent. Et puis, dans toute la vie du Seigneur, jusque sur la croix, dans sa détresse, il se confie en Dieu. Nous avons à apprendre de cette confiance-là, qui a été totale, entière. Ça peut aller très mal dans notre vie, nous aussi. Mais est-ce qu'on se confie en Dieu? Dieu est au-dessus de tout. Et puis l'obéissance, pour ne parler que de ces trois caractères. Combien le Seigneur a été obéissant? Et je crois dans les Colossiens, il est dit que Dieu incline vos cœurs à l'obéissance du Christ. Et voilà. Son obéissance, c'est rien moins que son obéissance que nous avons à apprendre. Combien il était, en tant qu'homme, il était obéissant à son Dieu. Il n'avait pas de volonté arrêtée contre celle de Dieu. Non, il vivait de toute parole de Dieu. Voilà, au désert, il aurait pu faire un miracle, transformer les pierres en pain. Non, il était à la fois dépendant et obéissant de son Père. Et le Seigneur, on a dit que le Seigneur n'a jamais fait un miracle inutile. Ah non? Il était obéissant, il vivait de la parole de Dieu, il écoutait la parole de Dieu. Alors qu'Israël n'a pas été obéissant dans le désert, lui, il écoutait la parole de Dieu. Et Nous avons à apprendre aussi de cette obéissance du Seigneur, rien moins. Nous n'avons pas à apprendre de ce qui nous entoure et qui est catastrophique, qui est marqué dans les versets 17 à 19. Ah non, surtout pas cet exemple, nous n'avons pas à apprendre de ce côté-là. Nous ne pouvons rien apprendre de bon de ce côté-là. Mais du Seigneur, oui, quelle merveilleuse étude nous pouvons faire comme un peintre étudie un modèle pour essayer de le reproduire. Mais parce que là, nous avons sa vie et son esprit.
Alors, sa vie et son esprit, tu viens de dire. Bon, s'il y a du négatif et du positif comme ça pour nous exhorter, c'est que quand même, ce n'est pas très facile. Et que même si apprendre le Christ, c'est pour notre joie et ça nous attire, c'est quand même pas tous les jours qu'on le réalise à 100%. Alors, il y a deux éléments positifs très forts. Il y a Christ qui est devant nous. Et c'est ces versets qui le donnent, versets 20 à 24. Et là, ça nous tire en avant, ça nous donne envie de mieux le connaître. Il y a cette proximité qui attache le cœur, qui attire le cœur comme Marie quand elle écoutait les paroles du Seigneur. Puis il me semble qu'il y a une ressource qui n'est pas nommée ici, mais que tu viens de nommer en parlant du Saint-Esprit. Le secret dans la réalisation de ces choses est lié à nos pensées, on l'a souligné au début. Et dans Romains 8, il y a quand même le résultat de l'œuvre de Christ pour nous et de la délivrance et de la présence du Saint-Esprit en nous. Romains 8, verset 6, la pensée, bon, d'un côté il y a le négatif, la pensée de la chair et la mort, mais le côté positif c'est la pensée de l'Esprit et vie et paix. Et pour vivre ce qui est devant nous cet après-midi, il y a quand même en nous cette ressource extraordinaire qui est le Saint-Esprit, qui peut diriger nos pensées vers ce qui touche à la vie, vers ce qui touche à la paix et vers Christ lui-même. Il prend de ce qui est à Christ et il nous le révèle. Et il nous le révèle. Et il glorifie Christ devant nos yeux pour attacher nos cœurs et pour nous aider. Alors, bien sûr, les exhortations sont là. Bien sûr, ce n'est pas facile. Mais d'un autre côté, les ressources divines sont là précisément pour nous aider et pour que Christ soit appris de cette façon utile, positive, glorieuse.
Alors dans les versets 22 à 24, nous avons trois verbes de nouveau qui nous indiquent ce que cette vérité va produire et comment elle va se manifester en nous. Le premier et le troisième se répondent, avoir dépouillé le vieil homme, d'avoir revêtu le nouvel homme. C'est comme si j'enlève un vêtement, je prends un nouveau vêtement. J'enlève le vieux vêtement, c'est-à-dire celui de la conduite précédente, la façon dont je me conduisais. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est peut-être plus évident pour quelqu'un qui a une conversion par rapport à un état passé qui m'était marqué peut-être par la débauche ou que sais-je. Mais de toute façon, ne serait-ce que dans nos pensées, c'est quelque chose qu'on doit faire. Et ensuite, le troisième, d'avoir revêtu le nouvel homme qui, lui, est créé selon Dieu. Non pas que l'ancien homme n'ait pas été créé selon Dieu, c'est bien Dieu qui nous a créés, mais notre être profond a été sali, de sorte que cette image de Dieu dans l'homme, elle a été ternie lors de la chute. Tandis que de ce nouvel homme, eh bien, lui, il est créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité. Il est caractérisé par cette identité de nature avec Dieu. C'est pour ça que Pierre ira jusqu'à dire en 2 Pierre 1, verset 4, nous sommes participants de la nature divine. Il est créé selon Dieu. Et alors, on a ces prototypes du nouvel homme qui sont là, ces hommes, ces femmes, qui ont enlevé et qui ont revêtu. Et j'en viens à l'expression au verbe du milieu, qui sont renouvelés dans l'esprit de l'entendement. On a un texte parallèle dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 3, qui complémente magnifiquement ce qu'on vient de lire ici. Colossiens 3, verset 10, fin du verset 9 déjà. « Ayant dépouillé le vieil homme avec ses actions, ayant revêtu le nouvel homme qui est renouvelé en connaissance selon l'image de celui qu'il a créé. » Encore une fois cette création. Alors, on n'a pas insisté outre mesure jusqu'à présent sur les parallèles entre Éphésiens et Colossiens, et je pense que c'est mieux de se concentrer sur le texte que l'on a à lire devant nous. Mais néanmoins, il me semble que là, il y a peut-être quelques petites nuances. Il faut bien voir que le texte grec est plus riche que notre langue française, et par rapport à nouveau, il y a deux mots différents qui ont une petite nuance, même si parfois ils sont un peu interchangeables. Il y en a un, c'est, par exemple, est-ce que vous voulez avoir ? Oui, je voudrais de nouveau boire. Et nous, on ne sait pas si c'est exactement la même boisson ou si on veut changer de boisson. Tandis qu'il y a deux mots grecs légèrement différents qui permettent de savoir si c'est nouveau au sens de plus jeune ou un de plus, ou c'est nouveau au sens de quelque chose qui est différent. Nouveau, mais au sens de différent. Et ce qui est magnifique, c'est que dans ce texte-là, dans notre texte d'Éphésiens, le nouvel homme, c'est un homme qui est différent, qui est nouveau dans ce sens qu'il est différent de l'ancien. Mais on est appelé à être renouvelé, autrement dit à être rajeuni. Et ce nouvel homme qui est entièrement différent, il est aussi appelé à se rajeunir, à être rajeuni. De sorte que, même si ces versets 22 à 24 nous présentent bien ce qui a été fait, hein, nous avons revêtu le nouvel homme, nous sommes débarrassés du vieil homme, il y a néanmoins cette dimension qu'on trouve dans le verbe du milieu, de ce rajeunissement permanent que nous avons à opérer, et que Paul traduira sous d'autres formes dans d'autres textes, comme par exemple, je pense à 2 Corinthiens 3, verset 18, « Or nous tous, contemplant à face découverte la gloire du Seigneur, nous sommes transformés progressivement en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est l'Esprit. » Donc on voit qu'on est à être... ce rajeunissement constant, et comment s'opère-t-il ? Eh bien, c'est ce qu'on a... la traduction que la plupart ont sous les yeux, « se renouveler dans l'esprit de votre entendement ». Et là, on peut faire le parallèle avec Romains 12, verset 2, où l'apôtre Paul nous dit qu'on a à être transformé par le renouvellement de notre entendement. Et donc, il y a ce renouvellement de nos pensées qui doit être constant. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours des nouvelles pensées qui arrivent, et donc il faut rajeunir de façon à ce que cet homme entièrement nouveau qui a été créé puisse avoir son plein développement. Et l'Épître aux Colossiens présente les choses de façon symétrique sous l'autre aspect. Et c'est ça qui est absolument intéressant, c'est que dans Colossiens 3, verset 10, le nouvel homme qu'on a reçu, lui, c'est celui qui se rajeunit. Et par contre, on doit être renouvelé dans ce sens, avoir cette pensée qui est chaque fois autre. De sorte qu'on voit bien combien ces deux passages s'harmonisent de façon magnifique pour présenter à la fois cet aspect de rajeunissement permanent et rajeuni dans une dimension qui est tout autre, qui est nouvelle parce que ça appartient à la nouvelle création de Dieu et non plus à l'ancienne qui a été tellement entachée par le péché, corrompu, comme le dit notre verset 22, ce vieil homme qui se corrompt, qui se nécrose selon les convoitises trompeuses.
Deux aspects très complémentaires et nécessaires de notre vie. Dans les Colossiens, et je pense qu'il faut rapprocher de ce qui est dit dans le chapitre 2, verset 6, qui est en parallèle avec ce que nous avons lu aussi dans les Éphésiens, comme donc vous avez reçu le Christ. Et puis verset 10, vous êtes accompli en lui. C'est la prise de conscience que Christ est en moi, que j'ai reçu quelque chose, que j'ai reçu la vie nouvelle. Et cela doit avoir des conséquences dans ma propre vie. Cette prise de conscience, elle doit être très forte. J'ai reçu Christ, comme l'apôtre dira dans les Philippiens, pour moi vivre, c'est Christ. Alors que dans les Éphésiens, c'est apprendre. C'est quelque chose qui va se continuer toute ma vie. C'est pas tant la prise de conscience, mais parce que j'ai pris conscience, j'ai envie d'apprendre. J'ai envie de mieux le connaître. Alors, il faut que je sois renouvelé chaque jour, que je progresse chaque jour dans la connaissance de celui qui habite en moi.
Exhorter à apprendre le Christ, la vérité étant Jésus, Dieu a pleinement approuvé cet homme, le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur la terre. Et il fait ce qu'il faut pour qu'il puisse pleinement approuver la vie de ses enfants, des croyants. Et on a lu qu'il a créé, dans ceux qui ont cru, il a créé donc ce nouvel homme en justice et sainteté de la vérité. On sait que pour Dieu, il n'y a que deux hommes. Il y a le premier, c'est Adam. Et Adam était dans des bonnes conditions, mais il n'a pas pu être pour le plaisir de Dieu. Et alors il y a le second homme, cet homme, voilà, le Seigneur Jésus, qui est venu et qui a pleinement satisfait au cœur de Dieu. Et en quelque sorte, en croyant, on pourrait dire, mais j'ai Jésus en moi qui va vivre, mais ce n'est pas vraiment Jésus qui est en moi. C'est une création nouvelle. Tu disais tout à l'heure que nous étions de la nature divine. Effectivement, il y a une création nouvelle. Nous sommes une nouvelle création, et cette nouvelle création qui a les caractères de son Père, va pouvoir effectivement agir, parler, penser, et d'une manière qui va honorer Dieu. Et c'est pour ça que dans la mesure où nous sommes renouvelés en étant occupés du Seigneur Jésus, en ayant une relation personnelle avec le Seigneur Jésus, alors il va y avoir une manifestation dans nos actes. Revêtir, on a parlé de vêtements. Mais vous ne croyez pas que ça serait bien aussi d'imaginer un arbre fruitier? On ne dit pas qu'il est revêtu de fruits, mais il est quand même recouvert de fruits. Et moi, j'y connais rien en arbre fruitier. Mais par contre, quand j'arrive, que je vois des poires, je dis c'est un poirier. Et en réalité, d'où ça vient? C'est parce qu'à l'intérieur, il y a la sève qui va faire de sorte que le tronc qui est va produire des poires. Et en quelque sorte, nous qui avons été, qui sommes cette créature nouvelle, en étant nourris d'un Christ vivant, en ayant devant nous ce modèle, comment le Seigneur Jésus a été lorsqu'il était sur la terre, eh bien nous allons porter des fruits que lui aurait portés. Et ça va être quoi? Eh bien la vérité, ça va être ce que tu nous disais comme en introduction tout à l'heure, et que j'ai noté, mais je ne sais plus où c'est. Tu pourrais nous redire les différentes choses qu'on voit? La vérité, des paroles d'édification, on travaille, etc. On ne se met pas en colère, c'est bien ça qu'on va voir, on pardonne. Tout cela pour dire que ce que l'on va vivre maintenant, et c'est ce que Marc disait en commençant ce matin, c'est pas parce qu'on va se dire, ben voilà, il va falloir, parce que le monde fait différemment, nous on va s'obliger à pardonner, etc. Non, ça va être le résultat de ce qu'on aura appris dans une relation vivante avec le Seigneur Jésus.
Disant en introduction, c'était que dans ces cinq séries d'exhortations, on a chaque fois une exhortation négative, une positive et une motivation. Et peut-être on peut faire un parallèle avec les trois éléments qu'on a vus dans les versets 22 à 24. Négatif, on se débarrasse. Positif, on est renouvelé. Et la motivation, c'est qu'on a revêtu le nouvel homme qui a été créé. Dieu a créé en nous. Cette création, elle est déjà effectuée. Et ce qui est peut-être juste, si on reprend la motivation, le troisième point. Pourquoi parler la vérité, verset 25 pour la première? Parce que nous sommes membres les uns des autres. Pourquoi ne pas pécher si on se met en colère, versets 26 et 27, parce qu'on n'a pas donné d'occasion au diable, on n'a plus rien à faire avec lui. Pourquoi ne plus voler? Parce qu'on a besoin de partager, on est appelé à partager parce qu'on fait partie du même corps. Pourquoi ne plus dire de mauvaises paroles? Parce qu'on a cet esprit en nous et qu'on n'a pas à attrister. Et pourquoi avoir ces sentiments positifs? Parce que Dieu en Christ nous a fait grâce. Donc on voit combien cette motivation elle est profonde. Encore un point, c'est qu'il y a du négatif et il y a du positif. Et ça c'est la novation peut-être du Nouveau Testament. Les 10 commandements c'était ne, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas. Si on prend Exode 20, tu ne déroberas pas, point. Alors, le Nouveau Testament ne va pas dire autre chose. Dans ce sens-là, on voit la cohérence de l'enseignement à travers l'Écriture. Et je trouve qu'il est parfois un peu sot d'opposer l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais la novation du Nouveau Testament, ça va être une motivation intérieure que l'Ancien Testament ne donnait pas encore. Et cette motivation intérieure, elle va nous conduire à ne pas voler. On en reste au niveau des 10 commandements, c'est déjà bien. Mais avec une motivation supplémentaire, mais pour prendre celui-là qui est peut-être le plus simple, hein, le troisième des cinq. Mais pourquoi? Parce qu'au contraire, on va faire le bien pour pouvoir donner. Et on voit la motivation positive. De sorte qu'un christianisme qui se contenterait de ne pas, manquerait le but. Parce qu'on créerait un vide qui ne serait pas rempli. Alors qu'au contraire, nous sommes appelés à quelque chose de positif. Alors on l'a déjà dit 100 fois, il y a un petit garçon, une petite fille de 18 mois qui ne veut pas lâcher son truc. On lui montre quelque chose de mieux, elle le lâche tout de suite. Et c'est un peu trivial, mais c'est la même chose pour nous. Si on a envie de donner, alors là, on va avoir une autre approche de l'argent, par exemple.